Mais ce matin, on va poursuivre cette réflexion avec Corinthiens, et je trouve c'est tellement riche de parcourir une église qui est bien loin de nous, des standards de vie que l'on connaît, et qui pourtant, dans le contenu, dans l'exhortation que Paul donne à cette église, combien ça nous rejoint dans nos préoccupations. Voilà, c'est le grand titre de la série, hein, d'être différent. On est appelé à être différent du monde dans lequel on se trouve. Et là, ce matin, on est dans le chapitre 4. Et avec le chapitre 4, on va terminer un peu la question, ce grand thème de la division qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Vous savez, depuis le début, on traite cette tension qu'il y avait entre les frères et sœurs, ces positions orgueilleuses des uns par rapport aux autres, cette comparaison. Et Paul, avec ce chapitre 4, va un peu terminer cette exhortation autour des difficultés de vie ensemble, cette unité qui est mise à mal par des partis pris, etc. Je vous invite vraiment à prendre le texte sous les yeux, la parole de Dieu. Alors pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, on avait traité toujours à nouveau cette question des tensions. Et Paul, il avait donné trois compétences, on va dire, à travailler pour vivre l'Église ensemble. Est-ce que vous vous rappelez? J'avais écrit, on était là un pour tous pour un. Hein. On était là tous pour le Seigneur, et le Seigneur était tous pour nous. C'est ce qui nous fait nous unir. Est-ce que vous vous rappelez des trois verbes que j'avais relevés? Peut-être vous l'avez noté dans vos carnets. Enfin, je vais vous les rappeler simplement. Hein. C'était servir. On est appelé à servir. Le Seigneur, on est appelé à construire, à bâtir, non pas à détruire. Et enfin, on est appelé à saisir, ça veut dire on est appelé à comprendre ce que c'est l'Église, que c'est voulu par Dieu, que c'est saint, etc. Et du coup, imaginez qu'on a bien bossé, qu'on a bien mis ces principes que Paul nous a laissés, et on s'imagine dans 5 ans, 350 personnes au culte. On a acheté des locaux plus grands, mieux situés. On a réaménagé un peu l'ensemble, on a rendu les locaux un peu plus confortables pour vivre notamment nos moments conviviaux. Hein, pour ceux qui ont vécu dimanche dernier, on a vécu une agape extraordinaire où on était à l'étroit. La cuisine n'était pas spécifiquement équipée pour autant de monde, mais c'était tellement chaleureux. Ah, voilà. Notre groupe de louanges, ben il y en a plus, il y en a pas simplement deux, mais il y en a bien plus. Il y a tous les instruments représentés. Il y a toujours autant d'activités d'enfants, toujours autant d'enfants d'ailleurs, toujours une troupe flambeau qui marche du tonnerre et qui encourage, au point où on a une super réputation dans le quartier, un tiers de la troupe viennent du quartier. On a parfois des représentants de nos autorités parmi nous. Vos responsables sont connus, votre pasteur est connu dans le monde, conférence internationale. Pff. Notre église est en train de rayonner, on est en train d'implanter d'autres églises dans deux villes moyennes autour de nous. On a embauché plusieurs ministères à temps plein. On soutient activement la mission. On a une grosse équipe qui va partir pour plusieurs mois soutenir notre sœur Wendy à Madagascar, etc. On est en train de mettre tout un tas de services rendus à la population, aide aux devoirs, soutien à nos aînés, chorale, expo, conférence, tout ce que vous voulez. Ça vous dit ? Si je vous propose de faire ça d'ici 5 ans, on signe. Alors c'est vrai, on va travailler à notre vision d'église dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, c'est quelque chose qu'on parle depuis longtemps. Mais voilà, c'est des choses qu'on veut avancer. Alors j'aimerais pas nous influencer, hein. Mais j'aimerais surtout poser cette question. Si tout ça se réalise, qu'est-ce que vous diriez qu'on a réussi? Si tout cela arrive dans notre vie d'église, est-ce que cela a réussi? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que Dieu est avec nous? On doit être une bonne église, de bons chrétiens, de bons serviteurs. On construit, on saisit clairement ce que l'église est appelée à être. Et en fait, c'est la question qui est soulevée dans ce texte du chapitre 4. À quoi doit-on mesurer la réussite de notre marche avec Dieu? D'ailleurs, que ce soit collectivement, mais aussi individuellement. Et c'est vrai qu'on est tenté de mesurer une réussite, une fidélité, selon des critères qui sont peut-être pas les critères que Dieu voudrait nous voir prendre. On peut s'auto-féliciter. On peut se sentir trop sûr de soi. On est fort pour Dieu. On est peut-être les meilleurs chrétiens de la région, et en fait, on est peut-être les pires. Alors dans le passage qu'on va lire, dans l'ensemble du chapitre 4, on va prendre l'ensemble du chapitre 4, en fait, Paul continue donc à montrer à l'église de Corinthe ce qui ne va pas. Et la leçon qu'il va dire, c'est « Attention, comment mesurez-vous votre réussite spirituelle ?» Autant pour l'église de Corinthe, mais je crois qu'on peut s'interroger pour nous-mêmes. Assure-toi de mesurer ta réussite avec les critères de Dieu. En fait, et j'ai donné comme titre à ce chapitre le test des serviteurs de Dieu, le test. Et j'ai résumé ce chapitre, comme je prends l'habitude des fois de résumer, un serviteur de Dieu cherche une louange, une distinction, une influence, différente du monde qui nous entoure ou du monde contemporain. Je vous invite à prier avant d'aller dans le texte. Seigneur, c'est un privilège d'être là rassemblé ce matin, tel que nous sommes, mais tu veux nous parler. C'est notre conviction, c'est ma conviction, c'est que tu es un Dieu qui parle et qui prend plaisir à nous parler lorsqu'on se retrouve les uns avec les autres. Et tu veux nous interpeller. Merci pour ta parole qui est une parole vivante, une parole qui ne nous laisse pas indifférente. Mais merci parce que tu as mis dans nos cœurs ce Saint-Esprit qui éclaire cela. Et je prie qu'au travers de ce que Paul a dit à Corinthe, puisse nous interroger sur notre manière d'être, notre manière de faire. Viens bousculer peut-être nos conceptions. Viens bousculer notre manière d'être pour qu'on puisse davantage te ressembler dans le monde du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite vraiment à prendre le texte sous les yeux, donc chapitre 4. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un pour contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénouement. Nous sommes maltraités, errants. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous le rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous, mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur ? Le test d'un bon et fidèle serviteur. Alors, je vais relever trois éléments. Le premier élément que j'aimerais relever de ce texte, c'est la bonne attitude. Fidèle, des versets 1 à 6. Alors premièrement, et ça peut paraître un peu basique, mais si nous voulons mesurer notre réussite spirituelle aux critères de Dieu et pas autre chose, demande-toi pour commencer si tu es fidèle à Dieu et rien qu'à Dieu. On l'a entendu, hein. On voit que Paul se présente comme faisant partie des serviteurs de Christ, des administrateurs, on pourrait dire des intendants. Un intendant est chargé de s'occuper des affaires de son maître. Il travaille au profit de celui auquel il appartient. Il est serviteur. Nous sommes serviteurs, on l'a dit la dernière fois, et non des maîtres. On est des administrateurs et non des propriétaires. Nous ne sommes pas les capitaines, mais nous sommes sous les ordres du grand capitaine. C'est cela qu'il y a derrière ces sens, des mots serviteur et administrateur. Nous gérons les affaires de Dieu et pas les nôtres, fidèles à Dieu. Et Paul nous dit ici qu'il est serviteur du mystère de Dieu. Pas besoin de développer, hein, on l'a vu la semaine dernière, les autres semaines, pardon. Paul a été missionné pour annoncer le message de l'évangile, la bonne nouvelle, le message de la grâce, la sagesse de la croix. Enfin, la folie de la croix. C'est voilà le message qu'il prêchait. L'échange de Christ pour nous. La difficulté dans cette église de Corinthe, c'était cette discussion. Qui est le plus grand ? Des clans, des divisions. Ils se mettaient derrière telle ou telle personne. Et Paul nous avait dit, fin du chapitre 3, je vous rappelle cela, que Apollos, tous les serviteurs, ont été donnés tous à l'Église. Chacun appartient aux Corinthiens. Pas besoin de se dire « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Tous appartiennent à Christ pour le bien de chacun. La victoire de l'un pour la victoire de l'autre. On est tous dans la même équipe. C'est ce qu'on avait vu les fois d'avant. On est tous pour un. On a tous reçu le Seigneur. On se place tous sur l'autorité de Christ. Donc ça n'a aucun sens de vouloir placer les uns au-dessus des autres. L'intendant, le serviteur, doit rendre des comptes à son maître, fidèle à Dieu. Et Paul dit aux Corinthiens, vous n'êtes pas mes maîtres. Vous n'êtes pas ceux à qui je dois rendre des comptes du ministère qui m'a été confié. C'est à Christ que je dois rendre des comptes. C'est lui seul le maître de la maison. C'est de lui que je suis administrateur. C'est de lui que je suis un intendant. Vous jugez ? Vous avez des préférences, mais ma fidélité, nous dit Paul, est premièrement à Christ. Il m'importe peu d'être jugé par vous. C'est le Seigneur Jésus. Vous pourriez se dire, mais pourquoi ne pas être jugé, ne pas s'auto-évaluer? Parce qu'on sait que le jugement humain est faillible. Le jugement humain ne connaît pas les profondeurs des cœurs. On peut regarder nos églises, on peut regarder nos responsables, on peut regarder nos frères et sœurs. Oui, on peut faire un jugement externe sur leur vie, sur leur comportement. Mais Dieu fait un jugement des cœurs. Nous, on voit l'extérieur, nous, on voit ce que les gens disent, on voit ce qu'ils font, peut-être dans leur acte, mais Dieu voit tout et Dieu voit l'intention du cœur que personne ne peut voir. Le jugement des hommes se fait bien souvent, malheureusement, à l'apparence et est souvent influencé, mais il est tellement superficiel. Donc Paul parle du jugement des Corinthiens. Non, c'est pas là où je suis appelé à être fidèle. Il dit même de son propre jugement. C'est la fin du verset 3. Cela aussi m'importe peu. Ma conscience, oui, elle est en paix, mais c'est pas pour cela que je suis justifié. Parce qu'il se sait, en toute honnêteté, Paul se sait faillible. On peut donner l'impression d'être qualifié, d'être clean, mais nous savons que nos jugements, nos peurs, nos cœurs sont bien souvent faillibles. Donc, ni le jugement des autres, ni le jugement de son propre jugement, mais la fidélité à Dieu, c'est dans le jugement du Seigneur qui peut être le seul à juger notre cœur. C'est le verset 4. C'est lui mon maître. Dieu seul voit ce que les Corinthiens pensent, que lui-même ne voit pas. Dieu connaît les intentions derrière chacune de nos actions. Et le Seigneur, quand il va venir, hein, c'est cette portion-là, hein, la fin de cette portion, il va mettre en lumière ce que chacun aura fait. On l'a déjà entendu plusieurs fois en écho dans le chapitre 3. Vous êtes serviteur, ben vous serez jugé sur la manière dont vous avez été serviteur. Vous avez construit, attention à la manière dont vous avez construit. Vous avez saisi, mais attention à la manière dont vous avez véritablement compris ce que j'attends de vous. Le Seigneur va mettre en lumière. Le Seigneur va exposer, va mettre en lumière ce qu'on aura fait de notre vie, de nos ministères, de nos œuvres, de ce qu'on aura pu dire. Et je crois que c'est important de nous le rappeler. On peut être facilement impressionné par les gens, et dans le milieu chrétien, on n'y échappe pas. Parfois, on met des hommes sur le piédestal, sur le devant de la scène. On les élève, on est impressionné par leur éloquence, par leurs conférences, par leurs œuvres qu'ils peuvent accomplir. Mais on n'a aucune idée de ce qui se passe réellement dans les cœurs. Mais Dieu, oui. Dieu voit la réalité. Dieu voit les cœurs. Imaginez-vous, vous êtes sur le balcon et vous regardez la rue devant vous. Vous voyez un jeune couple et puis le jeune homme, ben voilà, il vient en aide à une personne âgée. Vous dites, waouh, quel bel geste. Quelle belle attitude. Et peut-être que dans son cœur, c'était simplement pour impressionner sa belle. Et il y a un autre gars qui fait la même attitude, seul, qui vient en aide à cette personne âgée. Les deux actions, louables, de même préoccupation, mais avec des intentions qui ne sont tout autres. Un qui peut-être agit par ego, par vouloir se montrer, alors que l'autre a tout à fait une attitude de charité. C'est Jésus qui un jour va juger chacune de nos actions. C'est lui qui voit. Pour quelque chose qui a l'air beau, bon, agréable, peut-être les motivations qui sont derrière ne glorifient pas le Seigneur. Et ce qui motive Paul à être fidèle, c'est parce que un jour il va rencontrer le Seigneur. Il ne cherche pas la louange des hommes, mais celle de Dieu. Regardez le verset 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car c'est lui qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions, on pourrait dire les motivations des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Ça, c'est la motivation de Paul. Il souhaite recevoir la louange, non pas des Corinthiens, non pas des gens qui l'entourent, mais la motivation du Seigneur. Et Paul aurait pu attendre la louange des Corinthiens, puisqu'il a fait un certain nombre de choses. Non, votre jugement n'est peut-être pas juste. Nous sommes dans la même équipe. La seule motivation, c'est le retour de Christ. Dire, attendre la louange du Seigneur, la louange, c'est dire du bien de la personne. C'est comme, on connaît cette parole hein, que Jésus a prononcée dans Matthieu, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. »« Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est Dieu qui parle. C'est différent d'être le serviteur populaire, c'est différent d'être le serviteur impressionnant, c'est différent d'être le serviteur extraordinaire, applaudi par les hommes. Mais c'est bon et fidèle serviteur. Fidèle à Dieu d'une part, mais on voit aussi dans ce texte qu'il est fidèle à la parole, et rien qu'à la parole, relisez le verset 6. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Aller au-delà de ce qui est écrit. Le problème que Paul a montré aux Corinthiens et qu'on a vu depuis le début des premiers mots, c'est qu'ils sont allés au-delà de la parole. Ils ont recherché une sagesse humaine, au-delà de la sagesse de la croix. Ils ont dit, les Écritures, c'est bien beau, mais nous, on veut plus, on veut un leader charismatique, on veut des prédicateurs éloquents, on veut des signes, on veut des prodiges, on veut une connaissance. Et ils ont obtenu certaines de ces choses, on les verra dans la suite de la lettre de Corinthiens, et ils en sont devenus fiers. Mais cela a entraîné des divisions, des querelles, puisque tout le monde n'avait pas tout à fait les mêmes préférences ou les mêmes priorités. Et Paul leur dit, stop, vous êtes en train de vous égarer. Le danger de s'identifier à des choses secondaires, facultatives, de s'enorgueillir, de juger de ses spécificités au détriment de l'essentiel. Fidèle à Dieu, fidèle à sa parole. Alors la question qui est pour nous aujourd'hui, quelle est la louange que nous recherchons? Et suivant comment vous répondez, ça change nos décisions, nos trajectoires. Et Paul, dans ses premiers versets, nous encourage à être fidèle à Dieu, fidèle à son Seigneur, fidèle à la parole, et à chercher la louange de Dieu, et non pas celle des hommes. Être honoré par Dieu, plutôt que être honoré des hommes. Alors on pourrait se dire, ça ressemble à quoi? Pratiquement, tous les jours. Comment je fais pour tester les cœurs? Et voir qui est réellement serviteur, intendant du Seigneur. C'est ce qu'on voit dans la deuxième portion, dans cette bonne priorité humble. Regardez ce qui se passe dans le texte, versets 7 à 8. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Etc. Paul va se mettre à ironiser, de manière très cinglante sur les prétentions des Corinthiens. Apparemment, les chrétiens de cette église pensent déjà être arrivés. Ils sont en train de connaître le succès. Ils ont une certaine prospérité. On ne sait pas, ils étaient probablement nombreux. Ils ne sont pas inquiétés par les autorités, ils sont plutôt riches matériellement, ils sont des prédicateurs éloquents, capables de déployer une grande sagesse, une grande éloquence. Puisque c'est comme ça, Dieu doit probablement approuver notre marche avec le Seigneur. Mais Paul pose une question. Vous qui êtes tellement élevé, qu'est-ce qui vous distingue? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui te distingue d'un autre? Qu'est-ce qui vous permet de juger les autres de cette manière-là? Qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu? Est-ce que ce qui te distingue des autres, c'est tes accomplissements, tes diplômes dans ta vie, ta famille, ton nombre d'amis, ton succès? Qu'est-ce qui te distingue? C'est une bonne question, hein. C'est assez populaire d'entendre, dans la vie, tout se mérite. Le respect, l'amour, l'amitié, le pardon. Voilà. Rien n'est donné, tout est mérité. Donc, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je possède, est le fruit de ma grande sagesse, de mes grands efforts, de ma solide discipline. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai acquis est le fruit de ce que j'ai moi-même acquis. Et c'est possible aussi que tu connaisses ces succès, ces vérités, si tu les mets en pratique. Mon frère, ma sœur, discipline-toi un peu. Cette mentalité-là, c'est pas biblique. L'apôtre Paul nous dit ce que tu as, c'est quelque chose que tu as reçu. Ta force, ta sagesse, ton intelligence, ta capacité à faire, tu l'as reçu du Seigneur. Et cela doit nous conduire plutôt dans une attitude de reconnaissance et d'action, de grâce. Tout cela vient de Dieu. Aucune raison de se glorifier ou de se comparer. Et dans la suite, Paul enfonce un peu le clou, je dirais, il devient même un sarcasme. Il utilise l'image d'un spectacle. Paul ridiculise l'orgueil des Corinthiens en les confrontant avec les vraies marques d'un serviteur de Dieu. Ils sont déjà au ciel, on dirait, les Corinthiens. Ils sont déjà des rois. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes chacun à relire simplement les versets 8 à 13 et relever, simplement dans le silence, les marques que Paul met en avant du serviteur, de ses bonnes priorités. Regardez, simplement. dans le silence. Versets 8 à 13. Vous voyez le contraste? Vous êtes des rois, vous avez déjà le règne. Nous sommes des prisonniers, nous sommes la balayure. Vous êtes sages, nous sommes fous. Vous êtes forts, nous sommes faibles. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Paul est en train de montrer, c'est pas la gloire humaine, c'est pas la gloire du plus grand nombre, c'est pas l'apparence. Mais ce qui distingue un serviteur devant Dieu, c'est son humilité devant Dieu. C'est pas les applaudissements des personnes autour. En travaillant ce texte, j'ai vraiment trouvé écho à ce que David nous avait partagé autour de l'église persécutée. Paul, il est en train de dire, parce que nous, notre quotidien, c'est pas les honneurs, c'est plutôt la persécution, l'opprobre, la faiblesse, le dénouement, les souffrances, la mort. Je vous félicite, les chrétiens. Heureusement que vous êtes là. Parce que nous, les apôtres du Seigneur, on a clairement des leçons à recevoir de votre part. Vous voyez l'ironie? Il parle de souffrance, il parle de faiblesse, il parle de rejet. Et comment Paul répond? Versets 12 et 13. Je vais répondre avec patience, en bénissant et en répondant avec bonté. C'est complètement différent et l'inverse de ce que le monde considère comme honorable. Quel abaissement est en train de démontrer Paul, de rappeler. Dans le monde, un bon leader, un bon responsable, c'est celui qui s'élève. Dans la parole de Dieu, un bon leader, c'est celui qui s'abaisse pour servir. Ce que nous considérons comme honorable, qu'on peut applaudir et qui s'élève au-dessus des autres, qui est impressionnant, qui est parfait et bon, Dieu le voit comme celui qui marche dans l'humilité. C'est celui qui s'humilie, qui s'abaisse pour servir, prêt, si nécessaire, à souffrir, prêt à s'offrir en spectacle pour faire la volonté de Dieu. Prêt à souffrir. Dans le monde, pour être grand, pour aller au-dessus de la mêlée, on va peut-être, pour atteindre un poste privilégié dans une boîte, on va peut-être écraser les autres, dénigrer les autres, leur attitude au travail, pour nous montrer notre potentiel. On va mettre les choses dans la balance. Regardez comment on est en train de mesurer parfois la pertinence d'une personne dans le monde. On regarde le nombre de critiques, bombardé de jugements de critiques du côté de tous ceux qui l'honorent. Quand vous regardez des personnes célèbres, ben ils ont à la fois les deux. Ce qui compte vraiment, c'est comment Dieu le voit. Et même ici, on a l'impression que cette fidélité à Dieu, cette humilité devant Dieu, ben c'est peut-être la souffrance que nous sommes appelés à rencontrer, la sécheresse, la disette, les critiques, les moqueries, d'être des balayures, la folie de la croix. Ce qu'on avait évoqué les dernières fois. Alors attention à vouloir parfois trop vite nous faire croire que Dieu nous appelle ici-bas à être libérés des difficultés, être libérés de la maladie, être libérés de la pauvreté, être libérés de la persécution. Il existe une certaine vision de l'avenir optimiste sur cette terre où le chrétien doit progresser, plus de pouvoir, plus d'influence, plus de richesse, plus de confort. Mais quand on lit Paul, c'est pas le cas. Et c'est ce que pensaient les Corinthiens. Ils se disaient, on est sur le bon chemin parce qu'on vit toutes ces choses-là. Et Paul, il dit, en êtes-vous sûr? En êtes-vous sûr? Un bon leader n'est pas jugé selon sa popularité, mais selon sa fidélité. Deuxièmement, il n'est pas jugé selon son apparence impressionnante, mais son humilité. À quel point il est capable de descendre bas pour le service des autres, pour le service du Seigneur. Je sais que vous allez me dire, Josué, on sait ça. Dans l'Église, on sait ça, que c'est important d'être fidèle au Seigneur, que c'est important l'humilité. Qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui s'abaisse. On l'a noté, hein, quand on regarde notre règlement intérieur, notre confession de foi, c'est écrit, c'est clairement écrit. Que ce qu'on est appelé à regarder, c'est ce caractère. Mais malheureusement, on le contredit souvent en pratique. J'aimerais prendre un exemple, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais généralement quand on fait l'exercice, Qui pour vous est un homme, un leader, un pasteur, un ancien responsable, qui a une grande influence dans votre vie, que vous admirez, celui que vous êtes, vous disiez, celui-là, il faut le suivre, celui-là, il faut l'écouter, celui-là, il faut qu'il se déplace. Quel livre mérite vraiment d'être lu, s'il écrit un livre? Je pense qu'on est tous capables de nommer parfois un pasteur ou quelqu'un qui a eu un grand impact sur notre vie. Et je crois que la majorité du temps, on va nommer quelqu'un qui a une envergure internationale. Un super pasteur. Un super enseignant. Qui sert quelque part dans le monde. Qui est parfois très loin de chez nous. On cherche de grands noms. La parole d'un homme comme ça vaut peut-être plus que la parole d'un frère ou d'une sœur dans l'église. Et je crois que nous qui fréquentons l'église de Wittenheim, je crois qu'on peut dire honnêtement, Dieu nous bénit. Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage. Dieu nous maintient dans la foi. Dieu nous amène à des réconciliations. Dieu console vos cœurs de la part de la perte d'un être cher, par exemple. Dieu agit à travers des uns et des autres, des anciens qui se sont succédés, peut-être pour vous les plus âgés, vous avez entendu plusieurs pasteurs qui vous ont servi semaine après semaine. C'est vrai, on regarde des gens facilement aujourd'hui, et c'est bien, hein, sur Internet, des gens qui prêchent un peu partout, puis gloire à Dieu pour cela. Mais le pasteur que tu écoutes sur le podcast n'a probablement jamais prié pour toi personnellement. Ne t'a peut-être jamais visité une seule fois dans ta maison, ni mis les pieds sur ta table. Il ne t'a pas écouté ce que tu étais en train de vivre. Il n'a pas prié pour toi et ta situation. On peut écouter tout un tas de personnes où on n'a aucune occasion de tester leur caractère, leur être, leur humilité. Alors qu'il y a des gens tout près de vous. C'est rare de dire que celui qui a le plus grand impact dans nos vies, c'est peut-être notre frère ou notre sœur qui est à côté de nous. Des hommes simples qui servent fidèlement. Et donc à ton tour, est-ce que tu recherches la gloire de Dieu ou ta propre satisfaction personnelle? Et Paul ici dans ce passage montre le ridicule de cette église qui cherchait les choses clinquantes, les choses qui avaient un certain poids. Et il continue cet avertissement, et c'est la raison de la dernière portion, c'est que, en fait, je vous avertis parce que je suis un père pour vous, comme avec ses enfants. Un leader selon Dieu, quelqu'un qui exerce une bonne influence, qui est intègre. Quelqu'un qui est digne d'être imité. Regardez avec moi les versets 14 et 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ, par l'Évangile. Paul leur dit que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous prêchent l'Évangile, qui vous enseignent. Mais rendez-moi l'honneur en tant que père, parce que, non pas parce que je suis supérieur, non pas parce que j'enseigne mieux que les autres, ou parce que je serai meilleur que quiconque, mais parce que j'ai une relation particulière avec vous. Je vous ai prêché l'Évangile, et vous avez découvert le Seigneur. Paul, il adoucit dans cette fin de texte son discours. Il explique que s'il a été ferme, un peu dur peut-être avec eux, c'est pour les avertir, les exhorter, les encourager. C'est par cet évangile qu'il leur a donné. Il a pris soin d'eux. Et Paul, il est là de ce qu'il vient d'écrire depuis les premières lettres de cette lettre. Rappelez-vous cette histoire commune. Rappelez-vous l'évangile que nous avons reçu. Rappelez-vous ce que Christ a fait pour vous. Nous qui étions morts à cause de nos fautes, séparés de Dieu, Jésus est venu et il a fait de nous une famille. Il nous a pris à côté de lui. C'est ce grand échange que Dieu a fait pour nous. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être vigilants les uns envers les autres. Jésus est devenu coupable pour que je sois juste à ses yeux. Et à cause de la nature de cette relation, honorez l'avertissement que je suis en train de vous dire. Je vous ai prêché Christ, la folie de la croix. J'ai pas eu un message autre que celui-ci. Ne suivez pas ce chemin d'orgueil, de superficialité, mais écoutez ce que la parole de Dieu dit, ce que l'Évangile dit. Arrêtez de vous diviser. Changez de manière d'évaluer ce qui est un bon leader. Je vous en supplie. Verset 16, soyez mes imitateurs. Et pour cela, je vais vous envoyer Timothée, qui est comment ? Mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Tiens, les mêmes choses qu'on a lues depuis le début du chapitre. Je vous envoie Timothée, il est quoi ? Un fidèle serviteur. Il est un fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Je vous en supplie, je vous en conjure, on le voit là, c'est lourd. Prenez au sérieux ce que Paul est en train de nous dire. Soyez mes imitateurs. Quand on lit ça comme ça de façon vite, on se dit, voir quel prétentieux. Soyez mes imitateurs. Mais si on prend le temps, et depuis le début de la lettre de Corinthiens, de voir l'attitude de cœur de Paul, de comprendre sa théologie, de comprendre son raisonnement, en fait, Paul est en train de dire « Soyez mes imitateurs », mais parce que quoi ? Il est un imitateur de Christ. Et on le verra dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs », c'est la même chose, hein, « comme je le suis moi-même de Christ ». En fait, regardez mon exemple, mais parce que, en fait, j'ai mon modèle qui est devant moi, c'est Christ. Et ensuite, Timothée, bien-aimé, fidèle dans le Seigneur, qui va quoi ? Qu'est-ce qu'il va vous faire, Timothée ? Il va vous rappeler quels sont mes principes de vie en Christ. Verset 17. En Christ. Timothée marche en suivant Christ. Suivez-le. Il est un exemple. Un véritable serviteur du Seigneur doit pouvoir dire « imitez-moi ». Parce que j'imite le Seigneur. Pas parce qu'il est meilleur que les autres, pas parce qu'il a plus de dons que les autres. Non, parce que dans toutes ses faiblesses, dans tous ses manquements, il cherche à plaire avant tout au Seigneur. Pour ceux qui ont lu Le Bon Pèlerin de Joyan Buyan, plusieurs fois il cite ces passages, mais vous savez, il marche, c'est le pèlerin qui marche sur le chemin vers la cité céleste, vers le royaume de Dieu. Celui qui est le fidèle, c'est celui qui est capable de dire « Suis-moi parce que je suis moi-même en train de suivre Christ pour aller vers Christ. » Paul est en train de dire « Parce que moi-même je marche sur ce chemin où j'ai loin d'avoir tout compris encore, suivez-moi. » Imitez-moi, imitez-nous, parce que notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui a donné un exemple d'humilité, de fidélité, d'intégrité comme le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ces principes-là ? C'est pour ça que Paul peut dire « imitez-moi », parce que ce que je vous ai évoqué depuis ces quelques pages du chapitre 4, fidèle à Dieu, humble, intègre, parce qu'on a un modèle qu'il a été. Alors, nous sommes appelés à imiter. Oui, on est appelés à imiter. Mais est-ce le cas de ceux qu'on admire ? Est-ce qu'ils sont ceux qui suivent Christ, comme la parole de Dieu le dit ? Est-ce que c'est le cas de celui que vous admirez ? Est-ce qu'au-delà de la parole, et c'est ce que je disais parfois derrière un écran, on se dit « Waouh, c'est éloquent !» Est-ce que leur vie confirme ce qu'ils sont en train de dire ? Pour la plupart de ceux qu'on suit sur Internet, on n'est pas capable de le dire. On voit pas, on n'est pas dans leur quotidien. Là où on a un regard sur leur vie quotidienne, c'est ceux qui sont autour de vous. Là, on peut dire s'il y a, en tout cas, sous une certaine mesure, si entre ce qu'il dit reflète ce qu'il prêche. Par nature, on s'intéresse au confort, à la prospérité, au pouvoir, à la renommée, à la reconnaissance. Mais le vrai évangile produit l'humilité et ne regarde pas selon les critères du monde. La vraie puissance de l'évangile, c'est plutôt quand nous insultons, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous consolons. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Ce sont des vies radicalement transformées, qui ne recherchent pas ce que le monde recherche, qui ne sont pas des vies étincelantes ou prétentieuses, mais des vies humbles et dociles devant et dans les mains de Dieu. Et qui vont produire des fruits. Galates 4, les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Où on voit toutes ces choses-là ? Avec ceux qui sont autour de vous. Aujourd'hui, avec les réseaux, on a tellement de contacts, on voit tellement de gros mouvements, de grands pasteurs qui sont tombés, même après leur mort parfois, et pas que dans le milieu évangélique. Parfois, je me dis, le Seigneur nous permet de voir ces choses-là parce que, en fait, c'est, on doit peut-être arrêter de jouer au fan club, de se dire, voilà, ça c'est mon modèle, non. Est-ce qu'on suit Christ au-delà d'une personne? Parfois, qu'on arrête de mettre des personnes sur un piédestal parce qu'il prêche super bien, parce qu'il a une théologie solide, mais on n'a aucune idée de leur caractère. On n'a aucune idée s'ils sont fidèles, s'ils sont humbles, s'ils sont intègres. Donc ce qui est important, c'est pas le don, les dons, mais c'est le caractère. Et je crois qu'on l'a déjà évoqué même mardi à la réunion de vie d'église, lorsqu'on est amené à réfléchir à nos responsables, à nos anciens, à nos diacres, à ceux qu'on met en responsabilité, on dit, hein, on ne doit pas regarder à ce qu'ils sont capables de faire, mais à leur attitude, leur être, ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils reflètent le caractère de Christ? Ou est-ce qu'ils recherchent la gloire pour eux-mêmes ou celle de Dieu? Regardons à l'intégrité du caractère. Et c'est ce que Paul il dit dans la fin. Hein. Il dit, je vais venir vous voir et on va voir si tu reflètes ce que tu dis. Si vous vivez vraiment, si vous vivez cette puissance de caractère que vous prêchez, on pourrait relire les versets 18 à 21, c'est ça. Je vais venir vous voir. Vous dites que je suis faible, mais si je viens vous voir, est-ce que c'est cohérent entre ce que vous dites et ce que vous êtes en train de vivre? Vous avez une grande bouche, mais est-ce que on va le tester quand je vais venir vous voir? On connaît tous des gens qui sont des grands parleurs. Des personnes, quand tu les écoutes, tu as l'impression que c'est le meilleur, c'est le plus intelligent, il est capable de tout faire, il connaît tout, totalement accompli. Plus d'une fois, je me suis senti « waouh » face à des personnes, et on se dit « waouh, c'est lui que j'ai envie de suivre !» Mais on se trompe. On est tous capables de s'enorgueillir, de montrer qu'on est le meilleur. Mais il y a un moment ou un autre, et c'est ce que Paul montre déjà dans le chapitre 3 et 4, des choses là vont être à la lumière. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans la finalité. Celui qui s'élève va un jour être mis à la lumière. On cherche des grands parfois, loin, alors que Dieu place à côté de nous des personnes fidèles. Et il y en a beaucoup dans notre église locale. Et je crois qu'on peut le rappeler. Notre regard peut être facilement impressionné par ceux que le monde met en avant. Mais soyons attachés à des personnes caractérisées par l'humilité, par le don de soi, par leur intégrité, par leur attachement au Seigneur, qui imite Christ. Je terminerai. Choisir le test du bon serviteur, c'est pas un concours de popularité, mais un concours peut-être de caractère. Un bon serviteur ressemble à Jésus, l'évangile du plus grand qui s'est fait le plus petit, de l'adoré qui s'est fait serviteur, du glorieux qui s'est rendu ignoble, du créateur qui s'est fait créature, du juge suprême qui s'est laissé juger par des pécheurs. Alors avant de choisir celui que tu as envie de suivre, j'aimerais nous inviter à passer par le regard du creuset de 1 Corinthiens 4. Attention à ce que nous visons dans notre marche avec Dieu. Attention à comment on va mesurer notre réussite spirituelle. Puissions-nous la mesurer selon les critères de Dieu? Et les critères que Dieu a voulu nous montrer dans ce texte, c'est la fidélité, l'humilité, plus que la satisfaction personnelle. Faible, mais fidèle, plutôt que confortable. Alors, qu'est-ce qu'on sera dans 5 ans? Je ne sais pas. Peut-être 350 dans de super locaux? Peut-être qu'on aura régressé à 25 personnes dans ce bâtiment qui deviendra insalubre. Ce texte nous dit peu importe. Pourvu que Dieu te trouve, marcher fidèlement, humblement, avec la bonne priorité et selon le bon modèle et selon la bonne puissance, celle de l'évangile.